Rémi Audou, bonjour.
Bonjour.
Conseiller départemental et maire de Lettré. Tout d'abord, Rémi Audou, j'aimerais revenir avec vous sur cette actualité. L'ouverture le dimanche après-midi d'un supermarché de Gap sans caissier. Vers quoi glisse-t-on, selon vous ?
Alors effectivement, il y a le risque d'une société sans salariés, donc d'une société qui augmenterait le chômage, en particulier pour les travailleurs les moins qualifiés. Alors, c'est une nouvelle société, effectivement, hein, on change vraiment de modèle de société. Est-ce que c'est pour le mieux ? J'en suis pas convaincu. Est-ce qu'on doit avoir en plus une société de consommation 7 jours sur 7 ? Je n'en suis pas convaincu non plus. Je pense qu'il est bien quand même qu'on ait... Alors avant, c'était une journée entière, tout le dimanche. Maintenant, c'est les demi-journées, c'est les dimanches après-midi. Des moments où on peut ne pas être tourné sur la consommation. On peut avoir un moment à consacrer à sa famille, à consacrer à ses amis, à consacrer même un moment pour profiter de la nature, pour faire d'autres loisirs que d'aller dans un supermarché pour consommer.
Est-ce que c'est d'autant plus inquiétant pour vous que là, on cible un département qui est quand même rural ? On pourrait penser que cette ouverture sans caissier concerne un département urbain.
Bah, tout à fait, effectivement, ça s'entendrait plus dans un grand centre urbain. Et là, surtout dans une période de l'année où il n'y a pas nécessairement une augmentation de l'activité économique, ça ne se justifie pas nécessairement. Ce serait l'avant-veille de Noël, je dirais, pourquoi pas, exceptionnellement, ce dimanche-là, ouvrir toute la journée. Mais tous les dimanches, ça ne me semble pas aller dans le bon sens.
Alors parlons politique. En juin dernier, dans le rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes, l'institution pointait au sein du département des Hautes-Alpes des irrégularités dans la gestion. Notamment, elle s'interrogeait sur la possible utilisation des deniers publics à un usage personnel ou encore de frais kilométriques disproportionnés. Jean-Marie Bernard, le président, a eu l'occasion d'y répondre, mais on a très peu eu et très peu entendu l'opposition ou les indépendants. On a beaucoup entendu Pascal Boyer, mais très peu les indépendants, très peu votre voix notamment.
Moi, j'avais répondu en séance à Pascal Boyer pour dire que, d'une part, nous ne sommes pas procureurs et que ce que j'ai trouvé assez léger dans le rapport de la Cour des comptes, c'est que, étant donné les allégations qui figuraient dans la version finale, je trouvais qu'on allait soit trop loin, soit pas assez loin. C'est-à-dire que si vraiment le juge de la Cour des comptes considérait qu'il y avait eu une utilisation personnelle des deniers publics, il aurait dû transmettre son rapport au procureur de la République, ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait parce qu'à mon avis, il ne dispose pas d'éléments sérieux pour pouvoir incriminer le président du conseil départemental. Donc mettre dans un rapport qui va être destiné au public des suppositions disant que de l'argent public aurait été détourné à des fins personnelles sans avoir d'éléments concrets, j'ai trouvé que c'était vraiment très peu sérieux.
La Chambre régionale peut saisir la justice ?
Elle peut tout à fait transmettre son dossier au procureur de la République.
Oui. En tout cas, le dossier a été transmis au procureur. Depuis.
Madame Pascal Boyer ?
Oui, exactement.
Alors, j'avais compris qu'elle l'avait annoncé, je ne savais pas qu'elle l'avait fait. On va laisser la justice maintenant se prononcer.
Soit trop loin, soit pas assez loin. Pas assez loin dans quoi ? Dans quelles allégations ?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on porte publiquement des accusations de ce type, du type d'utilisation des deniers publics à des fins personnelles, ce qui est quand même pas rien, on doit aller jusqu'au bout, surtout quand on est un magistrat, et transmettre le dossier au procureur de la République, ce que le magistrat de la Cour des comptes n'a pas fait.
Vous avez envie, vous, d'aller plus loin en tant qu'indépendant ?
Non, parce que moi, je n'y crois pas. Je trouve qu'il n'y a aucun élément dans ce rapport qui permette vraiment de mettre en cause le président Jean-Marie Bernard. Il y a eu des erreurs d'imputation, mais ça arrive à tout le monde. Dans toutes les mairies, c'est souvent que le comptable public nous dit « vous avez utilisé telle imputation, il faut utiliser telle autre ». Ce n'est pas du ressort, ce n'est pas une faute pénale, loin s'en faut. Et je dirais même que si on prend les dépenses de cabinet globalement, il n'y a pas eu d'augmentation des dépenses du cabinet. Il y a peut-être eu des changements d'une imputation à une autre, mais les dépenses globales du cabinet n'ont pas bougé.
Et si tel était le cas, si la justice estimait qu'en effet, il y a eu une possible utilisation des deniers publics à un usage personnel, vous reverriez votre soutien ?
Si la justice devait... j'y crois pas du tout, hein, mais si la justice devait condamner un élu, mais même que ce soit Jean-Marie Bernard ou n'importe quel autre élu, à partir d'un moment où un élu serait condamné pour détournement de fonds publics. Dans ce cas-là, effectivement, pour moi, il faut démissionner.
Vous pourriez dire, comme Jean-Marie Bernard, que la Chambre régionale des comptes est composée de magistrats qui ne comprennent pas les comptes ?
De certains magistrats, oui, qui ne comprennent pas les comptes. Mais vous savez, dans toute institution, on a malheureusement des gens compétents et des gens qui le sont moins.
Alors, parlons des prochaines échéances, c'est-à-dire les élections de mars prochain. Vous l'avez annoncé en septembre, vous serez candidat à votre propre succession au sein de la commune de Lettré. Au début de la semaine dernière, la Gazette et le Courrier des maires ont organisé une matinée consacrée aux élections municipales 2020. Alors, ce qui ressort aujourd'hui, ce sont de nouveaux défis. Tout d'abord, la place des intercommunalités. Jusque-là, c'était un peu les invités discrètes des scrutins 2008-2014. Désormais, elles ont une visibilité croissante en matière de compétences, que ce soit dans la gestion des déchets ou même dans la gestion de l'eau.
Oui.
C'est par là que demain passera le... En fait, l'enjeu des municipales n'est pas tellement un enjeu, si tant est qu'on siégera plus tard dans une agglomération.
Alors, il y a deux aspects, effectivement. Les communes perdent des compétences, ça c'est un fait, et notamment, malheureusement, en 2020, moi j'ai la crainte, même si je me suis battu contre, qu'on perde la compétence eau. Ou alors que ce soit reporté éventuellement à 2026. Ça, c'est quelque chose que je regrette parce que je pense qu'on était beaucoup plus efficace au niveau communal qu'au niveau intercommunal pour la gestion du réseau d'eau. Après, il y a l'aspect, effectivement, siégé au conseil communautaire. Nous, à la communauté d'agglomération Gap-Talard-Durance, en gros, Gap représentant la moitié moins un des sièges, selon qui sera élu à Gap, ce sera la présidence viendra de la majorité issue à Gap. On est un peu des supplétifs dans ce conseil communautaire.
C'est regrettable. À un moment, Pierre-Bernard Raymond, l'ancien maire de Gap et ancien également ministre, appelait à ce qu'il y ait une présidence tournante au sein de cette agglomération, c'est-à-dire que ce ne soit pas que Gap qui siège, mais que ce soit aussi d'autres communes.
Alors, la question de la présidence, ce n'est pas vraiment le problème, parce que de toute façon, la majorité devra dépendre de la majorité de Gap. La majorité communautaire devra dépendre de la majorité au sein du conseil municipal de Gap. Donc après, qu'on mette un président issu de Gap ou qu'on mette un président issu d'une petite commune, ça ne changera pas le résultat final.
Donc, du coup, on ne peut rien y faire. Finalement, ce sera toujours cette crainte qu'on a vue s'agiter tout le temps.
C'est le problème de la loi parce que la loi fixe la composition du conseil communautaire sur des seuils purement démographiques. Ça a changé complètement par rapport à ce qu'était une intercommunalité à la base. Avant, une intercommunalité, c'était quelque chose de librement consenti par les communes qui avaient à peu près tout pouvoir pour la composition du conseil communautaire. Et c'était vraiment un outil au service des communes. Quand la communauté de communes Talard-Barcelonnette avait été créée, chaque commune avait 3 sièges. La Sols en avait 5 et Talard en avait 6. Donc seulement 2 fois plus une petite commune comme Esparron. Donc là, ça permettait vraiment d'avoir les communes qui représentaient, qui avaient un poids. Ce qui n'est plus le cas maintenant.
Et quels seront donc les enjeux, finalement, pas vraiment des municipales, mais de l'agglomération dans les années à venir, puisque ce sera ça, finalement, qui sera débattu par la suite une fois que les municipales seront passées?
C'est la question tout simplement de la démocratie de proximité. Plus on va aller dans une intercommunalité intégrée, c'est-à-dire qui prendra des compétences de plus en plus importantes, au plus on va éloigner l'électeur de la décision. Ça pose déjà des problèmes un peu maintenant. C'est-à-dire que le citoyen lambda, lorsqu'il a un problème, il ne va pas regarder quel est l'échelon compétent, il va s'adresser au maire. S'il y a un problème, par exemple, d'assainissement, la compétence ayant été transférée au 1er janvier 2018, les gens ne vont pas aller s'adresser au président de l'agglomération. Mmh. Ils viennent me voir, moi. Donc moi, la seule chose que je peux faire, c'est transférer la demande au service compétent. Mais si, au plus on va intégrer, par exemple, si on devait avoir un PLU, un plan local d'urbanisme intercommunal, ça veut dire que la répartition des terrains constructibles, non constructibles, des zones d'activité, ne serait plus décidée au niveau de la commune. Ce ne serait plus le conseil municipal élu par les citoyens qui déciderait. Ce serait l'intercommunalité.
Et c'est encore quelque chose qui repart dans le giron intercommunal. Oui. Vous parlez de démocratie de proximité. Quand, par exemple, on entend Daniel Spagnou, qui est président de la communauté du Citeronais-Buèche et président de l'association des maires des Alpes-de-Haute-Provence, dire « Attention, l'intercommunalité, ça reste un outil encore au service des communes et pas l'inverse.
Ben, » C'est la vision qu'on veut avoir.
Mais c'est possible.
C'est possible lorsqu'il y a vraiment... c'est pour le moment le cas aussi sur la communauté d'agglomération. Lorsqu'il y a un vrai partenariat entre les maires du territoire et l'exécutif de l'agglomération.
C'est le cas aujourd'hui ?
Sur l'agglomération, je dois dire que oui. Le président reçoit régulièrement l'ensemble des maires à un bureau exécutif élargi. Il n'est pas obligé par la loi de le faire. Il le fait, on débat, on n'est pas toujours d'accord, mais au moins, ça permet de donner notre point de vue.
Autre enjeu des municipales, notamment, c'est la place du citoyen. Sauf qu'aujourd'hui, on propose aux citoyens à tout va et à toutes les sauces une démocratie participative, comme si jusque-là, il n'était bon qu'à voter 2 fois pour les 2 tours et ensuite à se faire oublier.
Alors, c'est effectivement le gros débat sur la démocratie représentative. Est-ce que la démocratie représentative, c'est effectivement juste d'élire des conseillers et puis de ne rien dire pendant 6 ans. Ça dépend vraiment de ce que veulent, d'une part, les citoyens et de ce que veulent les équipes qui seront au pouvoir. Nous, par exemple, à Lettré, j'essaie d'associer le plus possible les citoyens. J'ai créé une commission consultative d'orientation générale qui est composée à parité de conseillers municipaux et de citoyens qui représentent un peu tous les quartiers pour tout ce qui concerne les projets qui vont engager la commune pour plusieurs années. C'est un premier exemple de démocratie participative. Il y a la question des référendums locaux. J'en avais fait un pour une question qui me semble essentielle, qui était l'entrée ou non dans la communauté d'agglomération. Malheureusement, on a été 3 communes à organiser ce type de scrutin. On n'a absolument pas été écoutés. Ça n'a pas eu de poids, malheureusement, au niveau de la préfecture. Il y a aussi, après, une implication plus ou moins forte des citoyens. C'est vrai que selon le type de la commune, on a des communes où il y a vraiment une vie de village, où les gens peuvent se sentir investis, même s'ils ne sont pas élus, par la vie publique. C'est un peu plus dur pour une commune comme Lettré, qui est vraiment en périphérie de Gap, qui n'a pas d'école, où il y a un peu moins une vie de village. C'est un peu plus dur d'intéresser les gens à la vie de la commune, mais ça peut être fait, par exemple, en mettant un budget participatif, une partie du budget à disposition des citoyens par vote pour tel ou tel projet.
Alors parlons d'une actualité, et ce sera la dernière question, qui vous touche, une actualité informatique, qui vous touche vous et qui touche également un autre élu, le maire de Vitrolles, Philippe Bié. Un faux profil Facebook a été créé qui ne se gêne pas de commentaires délétères sur votre propre profil Facebook.
Oui, alors effectivement, j'avais mis une publication pour clarifier un point par rapport à une polémique concernant la commune de Fouillouse, et j'ai vu fleurir plusieurs commentaires d'un certain Paul Terzon. C'était assez bizarre parce que son profil venait d'être créé, il n'avait aucun autre ami, il n'avait pas de publication, donc ça sentait quand même assez fortement le faux profil. J'avais mis un commentaire, Patricia Vincent aussi, en disant, bon, faudrait peut-être mettre son vrai nom quand on veut faire des commentaires. Et puis c'était quelqu'un qui, visiblement, par ses commentaires, était assez au fait de ce qui s'était passé dans la fameuse réunion qui a donné lieu à la polémique. Une réunion qui n'était pas publique, d'ailleurs.
Donc qui ne réunissait que des élus.
Que des élus, tout à fait. Puis j'ai reçu l'appel du maire de Vitrolles, Philippe Bié, qui m'a dit qu'il était très gêné parce qu'il s'est rendu compte que ce profil, Paul Terzon, avait été créé en utilisant son numéro de téléphone.
Portable.
Donc moi, je l'ai encouragé, je l'encourage encore maintenant, à déposer une plainte pour qu'on puisse savoir qui est le vrai Paul Terzon.
Vous savez s'il a déposé plainte ?
Philippe Bié, non, je ne suis pas au courant. Moi, je suis allé poser une main courante à la gendarmerie. Qui m'ont indiqué qu'ils allaient faire le nécessaire, notamment pour récupérer l'adresse IP des connexions.
Cette adresse a-t-elle été récupérée
depuis ? Pas encore, parce qu'ils doivent faire des demandes au niveau de Facebook national, donc ça prend un peu de temps.
Comment vous qualifieriez le climat qui règne actuellement, j'allais dire, au sein de l'agglomération de Gap ? Mais c'est vrai qu'on vous voit très souvent mener un certain débat sur les réseaux sociaux avec Jean-Michel Arnaud ou d'autres élus. Il y a une espèce de ping-pong qui se fait entre vous. Ça ne s'apaisera jamais ?
Ça pourrait s'apaiser s'il le souhaitait. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une situation particulière où on a un élu, Jean-Michel Arnaud, qui ne me salue pas, qui ne salue pas non plus Patricia Vincent, qui ne salue pas en fait les élus qui ne lui conviennent pas. Sur les 19 communes qui composent notre canton, on est allé rencontrer tous les maires et tous les conseils municipaux. Le seul qui n'a pas voulu nous recevoir, c'est Jean-Michel Arnaud, qui se plaint ensuite qu'on ne suit pas bien ses dossiers, mais il ne nous en informe pas en avant, vu qu'il ne nous parle pas. Un élu qui, par exemple, au cours d'une réunion qui réunissait Marcel Cana, Patricia Vincent, moi-même et lui, lorsque Patricia Vincent lui posait une question, il lui a répondu « Mais je ne vous parle pas, madame, je parle qu'à Cana. » Donc, vous voyez un peu le type de relation qu'on peut avoir. Lorsqu'on a des débats, moi, je préfère qu'on s'affronte d'argument à argument. D'ailleurs, votre radio avait, à un moment donné, proposé qu'on débatte sur le thème de l'entrée dans la communauté d'agglomération. J'avais accepté, il avait refusé. Donc, étant donné que... Voilà, il dispense un peu certains propos sur moi, mais pas en ma présence. Le seul moyen que j'ai de me défendre et de rétablir ma vérité, c'est de poster sur les réseaux sociaux. Je sais bien que ça embête certains élus, mais au bout d'un moment, c'est le seul moyen pour moi de donner ma part de vérité. Je suis à disposition pour débattre sur n'importe quel média local.
Merci beaucoup Rémi Audou. L'invitation est donc lancée sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental et maire de Lettré, candidat à votre propre succession. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.